Autour du trône se trouvaient 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 anciens étaient assis. Ils étaient habillés de vêtements blancs et portaient des couronnes d'or sur la tête. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Et devant lui brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, il y avait aussi comme une mer de verre qui a la transparence du cristal. Au milieu et autour du trône se tiennent 4 êtres vivants, couverts d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant ressemble à un lion. Le deuxième à un taureau. Le troisième a le visage d'un homme. Et le quatrième ressemble à un aigle en plein vol. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont couverts d'yeux tout autour et à l'intérieur. Ils ne cessent de dire, jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. » Chaque fois que les êtres vivants donnent gloire, honneur et reconnaissance à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 anciens se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, adorent celui qui vit au siècle des siècles et déposent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. » Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur, fermé grâce à 7 sceaux. Je vis aussi un ange puissant proclamer d'une voix forte « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux ?» Mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. Je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Alors, l'un des anciens me dit, « Ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Puis je vis, au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des anciens, un agneau debout comme offert en sacrifice. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. » Je regardai et j'entendis la voix de nombreux anges rassemblés autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Ils étaient des myriades de myriades et des milliers de milliers. Il disait d'une voix forte, « L'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis s'écrier à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. Les quatre êtres vivants répondaient « Amen !» Et les anciens se prosternèrent et adorèrent.
Merci. Voilà. Je ne sais pas ce qu'il faut ajouter à cela, mais je crois que l'on comprend pourquoi Paul a dit à Timothée, applique-toi à la lecture publique de la parole. Et je voulais tout au long de cette semaine qu'on puisse lire ces textes. Il me semble que souvent, dans nos églises, quand on lit un texte biblique, on ne met pas beaucoup de passion, on ne met pas beaucoup de sensibilité. Et je crois que ce serait un élément de louange à développer dans nos églises, à côté de la prière et des chants. La bonne lecture de la parole de Dieu. Amen. Je ne peux pas le dire aussi fort que cela. Merci. Chapitre 4, verset 1. « Après cela, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. » Changement énorme par rapport à ce qu'on a vu hier. Hier, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu les églises sur la terre, petites, méprisées, persécutées, en lutte pour la bonne doctrine, en lutte contre l'immoralité, en lutte pour garder le premier amour, en lutte, en combat. Et maintenant, une autre réalité, une porte ouverte dans le ciel, un aperçu du ciel. Petit mot sur le ciel. On dit très très facilement parmi les chrétiens de quelqu'un qui est décédé, il est parti au ciel. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas. On y reviendra à la fin de la semaine. Le ciel, dans la Bible, c'est la demeure de Dieu. C'est là où il y a le trône de Dieu. Si vous regardez l'analyse à la page 14 du chapitre 4, on va voir, il y a le trône, autour du trône, sortir du trône, devant le trône, au milieu du trône, autour du trône, celui qui est assis sur le trône. Le mot trône revient encore tout au long de ce chapitre 4. Parce que c'est la demeure de Dieu. Donc, attention quelque part. Il faut toujours faire attention quand un mot dans la Bible est utilisé de deux façons différentes. Premier sens du ciel, c'est comme n'importe qui, même un athée en France, le ciel, c'est, voilà, c'est ce qui est au-dessus de la tête. On lit dès le premier verset de la Bible. Dieu, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, dans ce sens-là, les cieux que l'on voit, les étoiles, la lune, les planètes, tout cela fait partie de la création. Alors que le ciel, dans le deuxième sens, n'a pas été créé. C'est le lieu où est Dieu. Donc, ce ciel physique a été créé. Genèse 15, Dieu demande à Abraham de regarder vers le ciel et de compter les étoiles, si tu peux les compter. Et donc, il y a à la fois le ciel très haut, mais le ciel tout près de chez nous, donc l'atmosphère, parce qu'on parle dans Genèse 1, verset 26, des oiseaux du ciel. Donc, là, on est en train d'utiliser le mot-là comme son usage courant en français. Le psaume 8. « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ? Le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. » Donc, les cieux, surtout les cieux la nuit, hier, si je me promenais un petit peu là-haut, je vois beaucoup plus d'étoiles qu'à Paris. Hein. Je vois pas d'étoiles à Paris, d'ailleurs. Mais ça nous ramène à notre petitesse. Mais on est encore dans la création. Mais il y a un deuxième sens du ciel dans la Bible, où, comme j'ai dit, c'est le lieu du trône de Dieu, c'est là où c'est la demeure de Dieu, c'est là où il exerce sa souveraineté. Si vous notez les références, vous pouvez toujours revenir, mais Deutéronome 26, verset 15, une prière. « Regarde de ta demeure sainte, regarde des cieux, et bénis ton peuple d'Israël, et le sol que tu nous as donné, comme tu l'avais juré à nos pères, ce pays où coule le lait et le miel. » Donc, regarde de ta demeure sainte. Le ciel, c'est la demeure de Dieu. Et l'affirmation fondamentale, c'est à partir de cette demeure que Dieu exerce sa souveraineté sur la terre. Trois versets. Le psaume 115, verset 3. « Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. » À méditer. Le psaume 11, verset 4. « L'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux. » C'était le psaume 11, verset 4. Matthieu 5, verset 34. « Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied. » Donc, même dans l'Ancien Testament, on associe ciel, demeure de Dieu, trône. Donc, la présence de Dieu, et c'est là où il règne. Et j'aime beaucoup le petit rappel d'Ecclésiaste, chapitre 5, le verset 1. Je trouve des fois, il y a des petites phrases dans la Bible, toutes simples, toutes claires, et qui remettent les choses à leur place. Ecclésiaste 5, « Dieu est au ciel et toi sur la terre. » On voit la différence. Donc c'est pour cela qu'on peut appeler Dieu le Dieu du ciel, ou le Père céleste, ou notre Père qui est aux cieux. Parce que le ciel physique, donc je reviens à la première définition, le ciel physique ne peut pas le contenir. Salomon, au moment du dédicace du temple, a dit, « Mais quoi, Dieu habiterait-il véritablement sur la terre ? Voici que les cieux des cieux ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que je t'ai bâtie. » Donc on peut conclure que le ciel dans le sens, deuxième sens, la demeure de Dieu, n'est pas un lieu géographique, ce n'est pas un lieu physique, c'est une autre existence, une autre dimension de la réalité. Et donc nous avons au chapitre 2 et 3 cette première partie des réalités sur la terre, et au chapitre 4 et 5, une deuxième partie de la réalité, les cieux ou le ciel, la demeure de Dieu. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un philosophe chrétien qui s'appelle Francis Schaeffer. Donc, il a écrit pas mal de livres, il est décédé depuis une vingtaine d'années. Mais je me souviens d'une illustration qu'il a donnée qui m'a beaucoup parlé. Donc il aimait bien dialoguer avec les gens de toute philosophie, etc. Puis un jour, pendant une réunion, il a demandé qu'on lui apporte une pomme. Et donc, il a pris la pomme et l'a coupée en deux. Après, il a pris un bout de papier, il a mis la moitié de la pomme en dessous et l'autre moitié au-dessus. Il disait, voilà, la plupart des personnes en Europe pensent que la réalité, c'est seulement la partie visible sur le papier. Mais en réalité, il y a une deuxième partie de la réalité qui n'est pas visible, qui est au-dessus. Et la pomme entière représente la totalité de la réalité. Et je pense que pour nous, comme pour les chrétiens persécutés à l'époque de Jean et depuis toujours après, cette notion que finalement, ça, ce n'est qu'une partie de la réalité. Il y a toute une réalité céleste, dont nous avons chanté tout à l'heure, l'agneau sur le trône aussi, qui est aussi réelle, mais pas visible. Et nous vivons à la fois dans la réalité physique et dans la réalité invisible. Revenons donc à ce texte d'Apocalypse 4, où on va passer en revue le nombre de fois où il part du trône. Verset 3 plutôt. Il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. À partir du moment où on veut parler de ce qui est invisible, comment va-t-on faire? Quel vocabulaire utiliser? Comment exprimer les choses? Et donc, on revient à ce genre littéraire apocalyptique, on va utiliser plein d'images, de symboles, etc., et qui sont en réalité très riches. Parce que déjà dans ce verset, on comprend trois choses sur Dieu. D'abord, puisqu'il y avait des pierres précieuses, on voit la valeur de Dieu. Mais on voit aussi sa proximité. Parce que j'ai dit que sur 405 versets dans l'Apocalypse, 285, sont des allusions à l'Ancien Testament. Et si vous étudiez le pectoral, donc une sorte de, on peut dire, d'objet que portait le souverain sacrificateur sur la poitrine, il y avait trois rangées de quatre pierres, quatre rangées de trois pierres, ça dépend dans quel sens on regarde. Et la première pierre, Et les 12 pierres représentaient les 12 tribus d'Israël. Et ici, on a deux pierres, jaspe et sardoine, qui sont en réalité la première pierre et la 12e pierre sur le pectoral. Donc on peut dire aussi que ça rappelle que Dieu est fidèle au peuple de son alliance. Ce qui était tout le symbolisme du pectoral, pour dire que le souverain sacrificateur représentait tout le peuple, quand il faisait les sacrifices dans le temple. Et la troisième chose que l'on peut dire, il y a un arc-en-ciel, et vous rappelez à la sortie de l'arche, l'arc-en-ciel qui représente la fidélité de Dieu, qui reste fidèle à toutes ses promesses. Donc on voit la valeur, la proximité et la valeur de Dieu, ne serait-ce que dans ce petit verset 3. Ensuite, le verset 4, autour du trône, 24 vieillards. Dans la version de Stella, c'était ancien, ça fait joli, mais c'est vieillard. Hein. Parce que même dans les textes bibliques où on parle des anciens d'une église, la vraie traduction, c'est vieillard. Hein. En Europe, on a du mal avec cela. Quand on va dans d'autres pays, africains ou asiatiques, le vieillard, c'est celui qui a acquis énormément d'expérience qu'il faut respecter. Quand j'étais au Burkina Faso, où j'ai apporté l'enseignement dans le congrès des Gébus, il y avait un Gébusien dans leur rôle pendant tout le camp, c'était à côté de moi pour porter mon sac partout. J'attends que les directeurs du camp... non, quelqu'un. Non, mais ces gens-là... Donc, ces vieillards, qui sont-ils? On ne sait pas. Peut-être c'était les anges en chef. En tout cas, ils représentent... Il y en a 24, on peut dire qu'ils représentent certainement... Là encore, symboliquement, les 12 tribus, les 12 apôtres, parce qu'on y revient à la fin de l'Apocalypse, la totalité du peuple de Dieu, de l'Ancienne Alliance et de la Nouvelle Alliance. Verset 5. « Du trône sortent des éclairs, des voix, des coups de tonnerre. » Et depuis toujours, l'orage impressionne, mais ça aussi, c'est une allusion au moment où la loi avait été donnée sur le mont Sinaï, où il y avait aussi orage, éclair, coup de tonnerre. On voit aussi, de nouveau, ces sept esprits, donc l'activité universelle du Saint-Esprit, le sept représentant la totalité des choses. Et puis, devant le trône, une mer de verre semblable à du cristal. Il faut se rappeler que dans l'Antiquité, le verre était un objet précieux. On ne savait pas faire du verre pur comme aujourd'hui. Donc plus c'était pur, plus c'était précieux, quelque part. Et cette pureté, de nouveau, représente devant Dieu une mer de pureté qu'on ne peut traverser que si on est purifié par le sang de Jésus, comme on va voir tout à l'heure. Au milieu du trône, quatre êtres vivants qui représentent en fait tout ce qu'il y a de noble et de fort dans la création, entre taureau, lion, être humain, aigle, qui annoncent sans cesse la sainteté de Dieu, sa toute-puissance, son éternité. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils adorent celui qui est sur le trône. Adorer, c'est quoi ? C'est reconnaître toutes ces qualités dont il est question là. C'est reconnaître et de s'émerveiller devant toutes ces qualités. Parce que tout existe, parce que Dieu l'a décidé et l'a conçu. Le verset 11. Tu es digne, notre Seigneur, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, que tu as créé toutes choses. C'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Dieu aurait pu ne rien créer. Il n'était pas obligé. Mais quand on pense après à tout cela, c'est absolument extraordinaire. Plus on regarde les étoiles, les galaxies, plus on est émerveillé. Il y a davantage de galaxies que d'êtres humains sur la Terre aujourd'hui. Je ne dis pas étoiles, je dis galaxies. Et quand on prend les microscopes électroniques et on voit tout ce qui est tout petit, quand on voit qu'un atome, le noyau, d'après ce que j'ai lu dans un livre scientifique, est à peu près aussi grand dans un atome qu'une poussière dans la cathédrale Notre-Dame, où les électrons sont autour, que ce soit l'infiniment grand ou l'infiniment petit, Dieu a prévu tout ça, il a conçu tout cela, alors qu'il n'y avait pas de modèle. Si, pour mon appartement, je vais à Ikea, j'achète un meuble, je vais être tout fier, je vais dire à Marie, j'ai fait un meuble, mais je n'ai rien fait du tout. Je n'ai pas créé le bois, je n'ai pas créé le métal. J'ai déjà vu d'autres meubles qui étaient pareils, puis de toute façon, il y avait le modèle qui m'a été proposé. Et pourtant, on est fiers de faire quelque chose comme ça. Et Dieu a tout créé à partir de rien, sans modèle, mais à partir de rien. Donc, on peut l'adorer. Hein. Donc voilà, on a une toute autre réalité qui est là, que cette réalité des petits chrétiens persécutés sur la terre. Au niveau 3, hier, on a lu quelques textes de martyrs des premiers siècles. Mais ils disaient, allez-y, vite, coupez-moi la tête pour que je sois le plus rapidement auprès du Seigneur. Le chapitre 5, on va un peu plus loin. Et maintenant, ce n'est pas simplement la vision du ciel. C'est la vision du Rédempteur qui est au ciel. Parce que là, il y a un petit moment de tristesse. Quelqu'un crie, et maintenant je ne vais jamais oublier le verset 2, d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre. Mais personne ne fut trouvé. Et j'en pleure parce qu'il n'y avait personne. De quoi s'agit-il ? Je remonte au chapitre 4, et le verset 1, qui dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Donc, le déroulement, je dirais, de l'histoire. Et on peut supposer que ce livre, écrit sur les deux faces et scellé en cette section, est en fait le déroulement de l'histoire. Mais ce livre est scellé, bloqué. C'est comme si l'histoire ne peut pas se dérouler. Il faut que quelqu'un débloque l'histoire et ouvre le livre. Et la seule façon de débloquer l'histoire, c'est que Jésus devait venir, s'incarner, vivre sur la terre, mourir, ressusciter, pour débloquer l'histoire. Et comme ça, notre histoire humaine était débloquée et le déroulement de l'histoire peut continuer. Donc, l'un des vieillards dit à Jean, « Mais ne pleure pas. Voici, le lion de la tribu de Juda a vaincu. » Pourquoi le lion de la tribu de Juda? C'est encore une référence à l'Ancien Testament où nous lisons dans Genèse 49, c'était la prière, la bénédiction de Jacob sur son fils en parlant de Juda. Genèse 49, les versets 9 et 10, « Juda est un jeune lion. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda. » Donc ça veut dire le sceptre, Juda serait la tribu royale, la tribu du roi. Donc le sceptre ne s'éloignera point de Juda parce que Juda est un jeune lion. Mais comment a-t-il vaincu? Jean entend les paroles du vieillard qui dit « Le lion de la tribu de Juda a vaincu. » Il se retourne pour voir et qu'est-ce qu'il voit? Un agneau. Waouh! Effet de surprise. Plutôt que d'avoir un gros lion, Aslan, si vous préférez, pour ceux qui aiment Narnia, ou plutôt d'avoir un grand lion et un agneau. Changement d'image, effet de surprise. Un agneau immolé. Là encore, thématique qui traverse toute la Bible. Dans Exode, je lis 2-3 versets, Exode 29 à partir du verset 38, les instructions données au sacrificateur. Voici ce que tu offriras sur l'autel, 2 agneaux d'un an, chaque jour, perpétuellement, tu offriras l'un des agneaux le matin, tu offriras l'autre agneau entre les deux soirs, on pense que ça veut dire entre le moment où le crépuscule commence et la nuit est là. C'est un holocauste perpétuel pour toutes vos générations que vous offrirez à l'entrée de la tente de la rencontre devant l'Éternel. Les prophètes ont repris le même thème. Je pense à Ésaïe 53, un chapitre que nous aimons beaucoup, extraordinaire. En parlant du Messie, il a été maltraité, il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche, semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie. Et le verset précédent, ça c'était Ésaïe 53, verset 7, mais le verset 6 l'explique. « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. » Donc l'agneau a pris sur lui notre péché, il est mort à notre place. C'est la raison pour laquelle Jean-Baptiste peut dire dans Jean 1, verset 29, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et donc, on revient dans l'Apocalypse et on voit un agneau qui était là comme immolé. On voit qu'il avait 7 cornes, la corne qui représente la puissance. Il avait 7 yeux, qui sont les 7 esprits, donc il voit tout. Et il vient prendre le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône, donc le Père. On voit cette relation parfaite entre Père et Fils, parce qu'ensemble, ils ont permis que l'histoire se déroule. Et on pense à ce verset qui dit que l'agneau était immolé dès avant la fondation du monde. Parce qu'en créant le monde, Dieu savait que le péché serait là. Il avait déjà prévu la réponse. À partir de ce moment-là, il y a une grande explosion de louanges, à partir du verset 8. On voit les vieillards, on voit qui chantent, et les 24 vierges qui se prosternent et qui chantent un cantique nouveau. Nouveau parce que avant la venue de Jésus, ce n'était pas possible de chanter ce chant. Tu es digne d'ouvrir les sceaux de ce livre, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. La notion de racheter est extrêmement importante. D'une part, c'est important parce que c'est un thème biblique qui nous fait penser à la délivrance. Dans certaines Bibles, on dit simplement délivré ou libéré. C'est vrai, mais il manque parfois les nuances. C'est délivré ou libéré en payant un prix. Il faut toujours payer le prix. C'est l'esclave qui est racheté, donc libéré, parce qu'un prix a été versé, par exemple. Et nous sommes des rachetés par le sang de Jésus. C'est ce que je disais tout à l'heure, nos péchés sont pardonnés parce que quelqu'un d'autre a payé à notre place. Mais à partir du moment où on est des rachetés, cela nous donne toute notre identité. Parce que si je reviens au chapitre 2 et 3, des chrétiens sur la terre qui souffraient, qui étaient persécutés, mais c'était des rachetés. Ils savaient qu'ils avaient la vie éternelle. Et je vous propose, en quelque sorte, avec ce mot, de vous donner un peu la clé de notre identité en tant que chrétien. Nous sommes d'abord des rachetés. C'est notre identité première. Ensuite, on a des identités secondaires. On est grand ou petit. Les yeux bruns ou bleus. Homme ou femme. On a 20 ans, 30 ans, 40 ans, plus. On a une certaine nationalité. On fait des études différentes. Tout ça, ça fait partie de notre identité. On ne peut pas le nier. Comme Paul disait, homme, femme, esclave, libre, grec, juif. C'est le niveau secondaire. Ça fait partie de notre identité, mais notre identité première, c'est de les racheter. Et un des problèmes dans notre société, justement, c'est lorsque nous n'avons pas cette identité première, que l'on va chercher son identité au niveau secondaire. Je vais être pour l'indépendance de la Corse. Ça fait toute mon identité, par exemple. Ou quelqu'un peut devenir très féministe, non pas parce que c'est faux en tant que tel, mais c'est moins important que d'être racheté, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut garder chaque chose à sa place. Nous sommes des rachetés du Seigneur. Et c'est ça qui nous permet de persévérer sur la terre parce que nous lui appartenons. Un verset que j'aime énormément dans 1 Corinthiens chapitre 6, les versets 19 et 20. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. » Voilà, on a été rachetés pour lui appartenir, et quoi qu'il arrive sur la terre, on dit, voilà, je sais qui je suis. Verset 10. « Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. » Ça veut dire, en quelque sorte, pour le dire autrement, selon 1 Pierre 2, nous sommes un sacerdoce royal. On va régner sur la terre. Je ne vais pas expliquer ça aujourd'hui, ce sera le dernier jour. On va revenir à ce terme. Mais nous sommes aussi, comme je l'avais dit le premier jour, des sacrificateurs qui offrons notre corps comme un sacrifice. On a lu Romains 12 tout à l'heure. Par la transformation de notre pensée, on va offrir notre corps comme un sacrifice à Dieu. On n'a plus besoin d'offrir des sacrifices pour le péché, mais des sacrifices de reconnaissance. À partir de ce moment-là, non seulement les vieillards et les êtres vivants, mais toutes les créatures, verset 13, qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la mer, vont dire à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, on voit le Père et le Fils ensemble, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Conclusion. Vous connaissez la définition de la foi dans Hébreux 11 et le verset 1. Je le rappelle en tout cas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quelle est la différence entre la foi et la raison ? Il va parler de notre intelligence de ce matin. Notre intelligence a deux limites. Notre intelligence en tant que telle ne peut rien nous dire sur l'avenir, alors que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et deuxièmement, notre intelligence ne peut rien nous dire sur ce qui est invisible. Je ne parle pas de l'infiniment petit qu'on peut regarder avec un microscope. Je parle de ce qui est vraiment invisible, donc Dieu lui-même, et cette réalité des chapitres 4 et 5. Et la foi, basée sur la révélation de Dieu, concerne donc l'avenir et l'invisible. Et c'est là qu'on comprend ce que cela veut dire, marcher par la foi. Parce que, je reviens au chapitre 2 et 3, ces petits chrétiens, dans certaines villes, là où le trône de Satan, dans d'autres qui doivent lutter contre des erreurs, dans d'autres contre il y a des martyrs, etc. Ils vont dire, mais moi, par la foi, je vais vivre en tenant compte de ce qui est invisible, tout ce qui est à venir. Et c'est ça la foi. Je ne regarde pas uniquement ce qui est autour de moi, parce que, rappelez, ce n'est que la moitié de la réalité. Je vis ma vie en tenant compte du fait qu'il y a de l'invisible et un avenir glorieux devant nous. Donc, ma prière pour vous et pour moi, c'est qu'on sache vivre par la foi en tenant compte de l'avenir glorieux qui est devant nous et de tout cet aspect de la réalité invisible actuellement à nos yeux. Amen.